Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons une petite lecture analytique sur la scène finale de L'étranger d'Albert Camus sur l'Ex-Kipit. Et c'est une scène assez célèbre, comme beaucoup hein, dans ce roman, puisque Meursault, le personnage principal, est condamné à mort, et donc il est à ce moment-là dans sa cellule, en train d'attendre son exécution. Et il fait de ses circonstances personnelles des circonstances existentielles aussi, dans ce monologue final. Puisqu'on va voir qu'il voit l'existence sous l'angle d'un mort en sursis et que finalement nous sommes tous, nous aussi, des condamnés en attente de notre exécution. Dans ce passage, il y a un aumônier, c'est-à-dire un prêtre, qui pénètre dans sa cellule et qui tente de le réconcilier avec Dieu. Mais Meursault, qui jusqu'alors était un être pris dans le présent, pris dans les sensations, qui n'avait pas d'idéologie, qui avait très peu de réflexion, eh bien, a un mouvement de révolte, a un mouvement de rejet, un mouvement de refus de ce prêtre. Et on va voir tout ça en détail. Alors, je vais vous lire tout d'abord cet excipit et ensuite nous allons. Eh bien, pratiquer l'explication. Allons-y pour la lecture. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein gosier et je l'ai insulté et je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane. Je déversais sur lui tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas? Pourtant, aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme. Il n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides, mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela, mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison, j'avais encore raison, j'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon et j'aurais pu vivre de telle autre. J'avais fait ceci et je n'avais pas fait cela. Je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre. Et après, c'était comme si j'avais attendu pendant tout ce temps, cette minute et cette petite aube où je serais justifié. Rien, rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues. Et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors, dans les années pas plus réelles que je vivais. Que m'importait la mort des autres, l'amour d'une mère? Que m'importait son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin devait m'élire moi-même, et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il? Comprenait-il donc? Tout le monde était privilégié, il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour, lui aussi on le condamnerait. Qu'importait si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère? Le chien de Salamano valait autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi coupable que la Parisienne que Masson avait épousée, ou que Marie qui avait envie que je l'épouse. Qu'importait que Raymond fût mon copain autant que Céleste, qui valait mieux que lui? Qu'importait que Marie donnât aujourd'hui sa bouche à un nouveau Meursault? Comprenait-il donc ce condamné et que du fond de mon avenir, j'étouffais en criant tout ceci, mais déjà on m'arrachait l'aumônier des mains et les gardiens me menaçaient. Lui, cependant, les a calmés et m'a regardé un moment en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il s'est détourné et il a disparu. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi, des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas, là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul. Il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Bien, voilà donc l'excipit de ce fameux roman d'Albert Camus, L'étranger. On va étudier ce texte selon trois axes de lecture. Nous montrerons tout d'abord que c'est un monologue tragique dans lequel Meursault se livre à des réflexions générales sur la nature humaine, sur la condition humaine, et qui débouche finalement sur l'acceptation de son destin. Alors, un monologue tragique, le passage qu'on a découpé est construit en deux parties. La première partie de la ligne 1 à 63 se passe avec le prêtre et elle est pleine d'émotions. C'est une espèce de catharsis, même des émotions paroxystiques, hein, des émotions portées à leur maximum qui déferlent comme un torrent sur ce prêtre et ça a un effet. Non seulement c'est le personnage, le locuteur, Meursault, hein, qui exprime ses émotions et ses sentiments, c'est le prêtre aussi qui les reçoit. Témoin, ses yeux pleins de larmes qu'il a à la ligne 61. Et puis la deuxième partie, eh bien, c'est Meursault resté seul et l'apaisement hein, qui succède à cette tempête émotionnelle, le calme par exemple à la page 63 où la mention du fait qu'il était épuisé et qu'il a dormi. Il y a donc cette division hein, en deux parties de notre extrait. Alors, il y a quelque chose qui a crevé, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en dehors de lui, et d'ailleurs le personnage ne sait pas bien pourquoi, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui a crevé en moi. C'est comme si les choses se passaient en dehors de sa volonté consciente, qui peut être interprété, fait, qui peut être interprété, comme allant dans le sens d'un registre tragique, puisque ce serait quelque chose de plus fort que lui, quelque chose qui le dépasse, et par rapport auquel sa volonté personnelle n'a pas de prise. Pourtant, et paradoxalement, il y a une omniprésence du « je », renforcée souvent par la forme emphatique « moi, je hein, », comme à la ligne 11 par exemple, « moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides », mais j'étais, etc., etc. Il y a cette prééminence du « je » qui fait face, en fait, au monde, qui fait face aux autres. Et alors, il y a deux temps hein, dans ce face-à-face entre « je » et le monde. Il y a d'abord « je » et le prêtre, l'aumônier, « je » et « tu », et puis ensuite, tous les autres. Alors, « je » et le prêtre, c'est de la ligne 1 à la ligne 26. Hein, il est en face du prêtre et il dit et il déverse sur le prêtre un petit peu tout le fond de son cœur, comme il dit, on peut citer un petit passage hein, dans ces lignes-là. « Je déversais sur lui tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas ?» etc., etc. Par la suite, cette confrontation, et en particulier à partir de la ligne 33, cette confrontation du personnage, du « je » et du monde, eh bien, change d'interlocuteur, on passe à tous les autres, on passe à l'énumération successive eh bien, de tous les autres, le chien de Salamano, sa femme, la petite femme automatique, Masson, la Parisienne, Marie, Raymond, etc., etc., etc. C'est donc un mouvement d'affirmation de soi, un mouvement d'affirmation de soi dans la violence, justement campe le personnage dans une position tragique face au moi. Puisque dans la deuxième partie, c'est l'acceptation. Meursault se dit prêt à tout revivre à la ligne 85 et il paraît enfin libre. Hein, le personnage s'ouvre, je m'ouvrai pour la première fois à la tendre indifférence du monde, nous dit-il à la ligne 89. Donc Meursault acquiert cette dimension de héros tragique à ce moment-là, puisqu'il accède au moment de sa mort à une certaine forme de sublime. On peut voir aussi, dans notre deuxième axe de lecture, qu'il se livre à des réflexions sur la nature humaine, sur la condition humaine, ce qui peut sembler un petit peu normal à la veille de sa mort. Mais quand on connaît le personnage de Meursault, quand on l'a vu depuis le début du roman, emprisonné qu'il est dans le moment présent, dans le monde des sensations, eh bien cet accès à des réflexions générales mérite d'être noté. Il englobe, hein, lui qui était toujours dans l'instant présent, maintenant le passé, le présent et le futur dans un même regard synthétique, par exemple à la ligne 16. J'avais eu raison, j'avais encore raison, j'avais toujours raison. Hein, il y a un regard rétrospectif qui est pointé sur sa vie depuis le point imaginaire de sa mort, depuis le point imaginaire dont il s'approche malgré tout de sa mort. On peut citer à la ligne 20 par exemple, j'avais fait ceci et je n'avais pas fait cela. Il y a même, chose notable chez le personnage, l'apparition du conditionnel qui signale la possibilité, l'hypothèse hein, de d'avoir vécu une autre vie. À la ligne 19, j'aurais pu vivre hein, une vie différente. D'accord? Il s'ouvre donc à la possibilité, à la spéculation, à la pure spéculation intellectuelle, lui qui en a montré une totale incapacité jusqu'à présent. La contestation est frontale, hein, et c'est une contestation d'abord de l'autorité sacrée du prêtre et de la religion qu'il représente. Cette question rhétorique qu'il lance à la ligne 9, je crois, il avait l'air si certain, n'est-ce pas? Eh bien, montre son ironie et contient implicitement sa réponse, c'est-à-dire que ses certitudes ne valent rien et que les miennes, hein, dans ce mouvement d'affirmation de soi, valent beaucoup mieux que les siennes. Et il y a cette opposition traditionnelle qui est reprise. Aucune de ces certitudes ne valait un cheveu de femme à la ligne 9. Opposition traditionnelle entre la chair et l'esprit, entre le monde corrompu et la pureté de l'au-delà, hein, du royaume des cieux, entre le monde transitoire que nous connaissons et le monde éternel qui nous est promis par la religion. Eh bien, cette opposition traditionnelle est reprise par Meursault, mais renversée à l'avantage du monde corrompu, du monde transitoire et du monde charnel. Alors, toute l'existence est vue depuis hein, le point de la mort à la ligne 24, depuis cette minute, nous dit-il, cette petite aube où je serai justifié, cette petite aube étant l'aube où il va connaître la mort. Il y a donc cette affirmation de supériorité, hein, ce sentiment de puissance qui émane de ce long monologue où l'abcès est crevé, et qui débouche sur l'acceptation du destin, parce que le passage semble pour le lecteur donner un sens rétrospectif non seulement au personnage, mais à tout le roman en fait. Hein, et le personnage se réveille, alors on peut y voir même une dimension symbolique, hein, comme une espèce de renaissance. Il se réveille, nous dit-on à la ligne 66, avec des étoiles sur le visage. Il y a aussi un rapprochement avec la mère, cette tendresse qui, pour la première fois, est exprimée ici et qui n'a jamais été auparavant exprimée. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche dans son procès, hein, et il se compare à elle d'ailleurs. J'ai pensé à maman, nous dit-il, à la ligne 76, et un petit peu plus loin, à la ligne 85, et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Dans ce moi aussi, il y a tout le lien filial, hein, toute cette concordance en fait entre le fils et la mère qui est contenue. Et c'est la possibilité du bonheur. Pourquoi se compare-t-il à la mère, à sa mère? Parce que elle a joué à recommencer et lui aussi aimerait jouer à recommencer, se sent prêt au bonheur, hein, ça passe par l'acceptation. Et c'est toute la nature qu'il redécouvre également à travers ses cinq sens. La campagne, hein, nous dit-on, des bruits de campagne montaient jusqu'à moi, des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes, etc., etc. Il y a les cinq sens de la perception qui sont exacerbés et qui sont quelque peu mélangés, un petit peu à la manière des synesthésies de Baudelaire. Meursault se trouve alors lié au monde de façon charnelle et de façon sensuelle. Il l'éprouve par sa chair, hein, nous dit-il à la toute fin de son monologue, de l'éprouver si pareil à moi, si fraternel, enfin, à la ligne 90. Cette unité du personnage avec le monde n'empêche pas une division radicale du personnage d'avec les autres êtres humains, d'avec le genre humain, puisqu'il revendique même hein, cette haine qu'on lui vouera à la fin, puisque Albert Camus termine son roman sur cette petite pirouette. Il ne me restait plus qu'à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Alors, pour résumer les choses, eh bien ici on a un monologue qui est un monologue tragique, on peut dire, où le personnage se livre à des réflexions un petit peu inattendues sur la condition humaine et où il y a un mouvement d'acceptation du destin qui est clairement dessiné. Ce sont deux postures grecques, helléniques, on peut dire, dans lesquelles Meursault se campe ici, le stoïcisme d'une part et l'épicurisme de l'autre. Ce dernier mouvement, c'est aussi le dernier cri du personnage, cette dernière sirène dont il est question dans le texte, que le personnage lance, et en quelque sorte son testament moral, son testament spirituel, son testament de l'absurde, pourrait-on dire. Sauf que, en fait, malgré tout, reste toujours un mystère dans ce roman. Le personnage est censé écrire dans sa cellule, il est condamné à mort, il est donc censé écrire depuis quel moment, même si le moment symbolique et imagé qu'il choisit est le moment de sa mort, il a forcément écrit ça avant sa mort. Et pour quelle raison? Tout ce qui précède peut-être avait cette justification, avait cette fonction peut-être de le justifier dans son procès par rapport à son crime ou par rapport à sa culpabilité. Ici, vu qu'il a été condamné et que maintenant il attend sa condamnation, cette fonction n'est plus une hypothèse possible et on se demande toujours à la fin du roman depuis non pas depuis où, mais depuis quand, depuis quel moment le personnage écrit et le personnage raconte et le personnage narre tout ce qui lui arrive. Le mystère reste entier.